Eh bien oui, vous avez reconnu l'indicatif, c'est donc le Festival Radio Français de Montpellier, d'Occitanie-Montpellier, pardon, il faut le dire dans le bon sens, ça a inversé, avant c'était Montpellier Languedoc-Roussillon, puis c'est devenu Montpellier-Occitanie, et puis maintenant c'est Occitanie-Montpellier. Alors pourquoi on fait tout ça? Il faut tout vous dire, c'est à cause des histoires de subventions des différents organismes. Fermeture de parenthèse. Donc nous sommes en face du festival, et normalement c'est votre quatrième émission. Alors aujourd'hui, cette quatrième émission va être consacrée au premier concert du mardi 17 juillet. Oui, ça fait quelque temps, mais bon, mardi 17 juillet. Et pour ce premier concert du mardi 17 juillet, qui se passait donc au Corum, il y avait Michel D'Alberto, le célèbre pianiste français, et j'ai eu la chance de le rencontrer et donc de pouvoir l'interviewer. Donc, eh bien, nous allons écouter Monsieur Michel D'Alberto. Nous allons l'écouter donc avec deux petits passages, et ensuite nous écouterons de la musique. Donc voici Michel D'Alberto qui nous explique, eh bien, en fait, le programme de du récital de 18h30 du mardi 17. Michel D'Alberto, on vous a vu donc il y a 2 ans dans une journée Brahms, et on retrouve ici autour de Liszt. C'est quand même des programmes qui pèsent, non, pour dans les doigts?
Non, comparé à il y a 2 ans, ce sera un programme nettement plus light,
oui,
léger pour moi, parce qu'il y a 2 ans, c'était toute la journée que j'avais, et ça avait été vraiment une rude journée, je me souviens. Et déjà même avant, puisqu'il avait fallu que j'écrive toute une série de textes, que je choisisse en accord avec Jean-Pierre Rousseau, le directeur du festival, les différents musiciens qui allaient y jouer, etc. Là, franchement, c'est juste un récital. Donc, c'est nettement plus tranquille, nettement plus cool, de ce point de vue-là. Enfin, bon, c'est quand même... Oui, c'est un bon petit programme, on va dire. Je retrouve là un des compositeurs que j'ai... que j'avais joué la toute première fois que j'étais venu au festival. Ça remonte à...
Ah, c'était la journée Liszt, non? C'est pas ça?
Oui, c'était une grande journée Liszt, et où, à l'époque, le directeur du festival, je parle de juillet 1986, où il m'avait demandé de jouer précisément 100 ans, exactement 100 ans après la mort de Liszt, puisque Liszt est mort un 30 juillet 1886, je crois, à Bayreuth. Et il m'avait demandé de jouer les 12 études d'exécution transcendante. Et ça, c'est resté un souvenir, j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots, cuisant. Parce que à l'Opéra Comédie, un 30 juillet 1986...
Sans clim.
Je crois que j'ai jamais eu, sans climatisation, je crois que j'ai jamais eu aussi chaud de même. Et en plus, dans un programme qui n'est pas franchement des sonates de Scarlatti.
Quoi. Oui. Et vous l'avez refait depuis?
Oh, j'ai refait plusieurs fois. J'avais refait plusieurs fois en 86 précisément, parce que c'était cet anniversaire Liszt. Je l'ai refait plusieurs fois. Je l'avais refait un peu après aussi. Bon, c'est un programme très particulier, très difficile. Quoi. C'est vraiment un des Himalayas d'un pianiste. Quoi.
Absolument.
Mais non seulement je les avais rejoués, mais je les ai enregistrés, et ça va sortir. C'est un enregistrement que j'avais fait à l'époque, en 86, qui ne m'avait pas satisfait à ce moment-là.
Pour quelle raison? Si on peut vous demander.
Honnêtement, je ne sais pas. Enfin, oui, parce que ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu, et puis c'est tout.
Qu'est-ce que vous n'avez pas la prise de son?
Non, c'était moi, et puis voilà.
D'accord.
Et donc, j'avais demandé à l'époque donc à Erato, directeur, si ça l'ennuierait, de ne pas le garder, de ne pas le sortir. Ils avaient été très, très élégants. Ils m'avaient dit, bien sûr, si c'est votre décision, voilà. Et puis, puisque Erato, le nouvel Erato, c'est-à-dire qui a racheté l'ancien Erato, enfin, c'est-à-dire Erato Warner, ça devient très compliqué. Moi, je m'y perds un peu, d'ailleurs. Ils sortent au mois de septembre, là, dans 2 mois, tous les enregistrements que j'ai faits pour eux, y compris les enregistrements que j'ai faits aussi pour EMI, pour Virgin, etc. Ça va faire un gros coffret de 16 ou 17 CD. Et ils m'ont dit, vous savez, on a retrouvé ces bandes. Est-ce que vous accepteriez de les réécouter et puis de nous dire... Donc je les ai réécoutées. Et pour être tout à fait honnête, je n'arrive pas vraiment à... C'est pour ça que je n'ai pas pu vous répondre à votre question, pourquoi je les ai refusées. Est-ce que je me suis vraiment... que j'ai été trop sévère à l'époque envers moi-même? J'espère que je ne suis pas trop cool avec moi-même aujourd'hui. Mais en tout cas, je leur ai dit, écoutez, bah oui, on va les laisser, on va les sortir, et puis voilà.
D'accord. Alors, votre programme est organisé autour de, j'ai envie de dire, deux parties. D'abord, le mystique et ensuite le visionnaire. Et chaque fois que, et chaque fois, il y a à côté de Debussy, il y a un autre compositeur. Alors, il faut un peu que vous nous expliquiez. Alors, d'abord, pourquoi Franck et pourquoi Debussy après ?
Donc, c'est organisé, effectivement, le thème principal étant Liszt. Et Jean-Pierre Rousseau m'avait demandé de faire un programme autour de Liszt. Alors, il y a un mot qui m'a frappé depuis très longtemps, que je connais d'un texte qu'Alfred Cortot avait écrit au sujet de Liszt, et il parle du génie protéiforme. Et je dois dire que je trouve, comme d'ailleurs très souvent dans les formules de Cortot, qu'elles sont parfaitement justes. Liszt est probablement effectivement un des génies les plus protéiformes que l'histoire de la musique a pu connaître. Et donc ça n'a pas été pour moi très difficile. J'avais aussi imaginé le Liszt transcripteur, avec des paraphrases, etc. Mais finalement, je me suis concentré sur deux aspects, sur deux facettes de sa personnalité, à savoir donc cette aspiration mystique qu'il a eue depuis apparemment, depuis sa genèse, depuis son enfance, qui a culminé dans le fait qu'il a reçu les ordres mineurs à Rome vers la fin de sa vie. Mais qu'il y a toujours eu chez lui cette aspiration, cette passion brûlante pour la religion. Et puis, le deuxième aspect, c'est donc le moderniste, quoi, le créateur qui anticipe avec un génie total l'évolution de la musique. Les œuvres tardives de Liszt, comme les trois là que je vais jouer, qu'il a écrites entre 1882, 84, 85, etc. Il y a donc cette lugubre gondole, il y a En rêve, et il y a Richard Wagner Venezia, sont vraiment des œuvres, si on ne sait pas d'abord que c'est de Liszt, très peu, il faut vraiment être très au courant pour dire « Ah oui, c'est de Liszt ». Et puis, si on ne sait pas que ça a été écrit à ce moment-là, on se dit bon, « ça a été écrit au tournant du siècle, quoi, à la fin du 19e, au début du 20e, parce que la tonalité commence à être vraiment abandonnée, quoi. Elle est de moins en moins présente. Donc voilà, et de mettre en face de ce Liszt-là, de mettre Debussy me paraissait un peu évident. Et là, j'ai choisi aussi des œuvres plutôt tardives de l'œuvre de Debussy, à savoir les trois images, le deuxième cahier donc des images de Debussy. Alors, l'œuvre en face du Liszt mystique, c'est le prélude chorale et fugue de Franck. Alors, César Franck, qui est donc un compositeur né... On dit né en Belgique, dans une Belgique qui n'existait pas à ce moment-là, bon, mais qui a passé l'essentiel de sa vie, et qui, d'ailleurs qui est devenu français, qui a écrit beaucoup de choses, mais finalement il n'y a que très peu d'œuvres qui ont passé le cap de la postérité. Et pour le piano, on a deux œuvres principales, c'est Prélude, chorale et fugue, écrit, si je crois bien, vers 1884, il me semble, 3 ou 4. Savoir donc Franck est mort en 90. Et puis il y a une deuxième œuvre qui est Prélude aria finale, qu'il a écrite un peu après, en 1886 ou 7, quelque chose comme ça. À part ça, bon, il y a des œuvres très connues, il y a le quintet avec piano, il y a la symphonie en ré mineur, il y a la sonate pour piano et violon, un des chevaux de bataille des violonistes, avec juste raison d'ailleurs, que j'aime énormément. Il y a des œuvres pour orgue magnifiques.
Mais le problème de Franck, c'est qu'il est un peu taxé de un peu de rasoir, si je peux exprimer cette
vrai.
Ouais. C'est formel, c'est assez formel sa façon de composer, ce qui fait que ça fait un peu, comment dirais-je, un truc un peu lourd.
Ah, je crains que ce soit souvent un peu la faute des interprètes alors.
Peut-être, oui.
Bien,
peut-être. Bah... Non, mais en fait, je ne sais pas.
Jamais. Écoutez, c'est un compositeur que j'ai connu à la classe de Vlado Perlmutter au conservatoire. C'était un compositeur que Perlmutter aimait énormément.
Il a dû jouer
enseigner. Il l'avait lui-même appris de Cortot. Cortot ayant peut-être pas connu César Franck, mais qui avait travaillé avec Louis Diemer, qui avait été un élève très proche de César Franck. Il y a des enregistrements somptueux d'ailleurs d'Alfred Cortot qu'on peut trouver facilement sur YouTube, de ces deux œuvres, d'ailleurs de presque tout ce qu'il y a pour le piano, puisqu'il y a également non seulement les deux œuvres pour piano, mais il y a les variations symphoniques aussi pour piano et orchestre, qu'il a enregistrées deux ou trois fois, il y a le quintet avec piano, il y a la sonate piano-violon avec Jacques Thibault,
oui.
Avec Jacques Thibault, qui est considéré comme vraiment un des enregistrements de référence de cette sonate. Donc c'est un compositeur que Cortot lui-même adorait jouer. Alors c'est vrai qu'il y a... Mais moi j'ai envie de dire que j'admire ça, cette espèce de perfection de la forme chez César Franck. Et c'est quelque chose qui de temps en temps a un petit peu manqué à certains compositeurs français.
C'est sûr.
Pour qui la forme était moins importante. Il faut bien jamais oublier une chose. Franck, on a envie de dire... même si ce n'est pas entièrement vrai qu'il est compositeur français. On va laisser quand même aux Belges un peu une part de César Franck. Mais la mère de César Franck était allemande. Donc, ce n'est pas étonnant si, pour les Allemands, César Franck reste un de leurs compositeurs français, entre guillemets, favoris. Parce que, pour eux, c'est important. Ils retrouvent dans la musique de César Franck ce qu'il y a aussi de très très beau dans leur musique, que ce soit chez Beethoven, chez Brahms, etc. C'est ce sens de la forme tellement porté, vraiment porté à une perfection somptueuse. Après, Prélude, chorale et fugue, oui, c'est apparemment l'histoire de cette œuvre, c'est qu'au début, César Franck voulait écrire un prélude et une fugue, un peu en hommage naturellement à Jean-Sébastien Bach, et il voulait trouver, enfin, il n'était pas satisfait de prélude. Comment dire, il avait le sentiment que quelque chose manquait. Et c'est de là qu'est venue cette idée d'insérer ce choral au milieu pour, en quelque sorte, lier le prélude et la fugue. Et comme Franck aimait beaucoup tout ce qui était la construction cyclique, ça veut dire reprendre les thèmes principaux à la fin d'une œuvre et les rejouer, si possible, en même temps... Il fait parfois des constructions d'une polyphonie extraordinaire.
Drüben in dem Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wandt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt im Himmel leer. Und sein kleiner Teller bleibt. deine Leie drin.
Et tout à l'heure, vous parliez de Cortot, mais Cortot, il a joué beaucoup de Liszt? Parce que ça, là, c'est, alors, là, j'ai un blanc,
oui,
je suis capable de le dire.
Alors, vous me posez une question, je ne connais quand même pas tout. Ce que je sais, c'est, alors, il a en tout cas joué et enregistré la sonate en si mineur.
D'accord.
Il y a, dans son édition, dans l'édition critique d'Alfred Cortot, il y a plusieurs œuvres. Il y a non seulement la sonate en si mineur, il y a également les harmonies poétiques et religieuses, dont la bénédiction de Dieu dans la solitude, qui est l'œuvre par laquelle j'ouvrirai le programme, qui est la troisième des harmonies poétiques et religieuses. Il y a une édition critique également des variations sur Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen. On a une série de variations sur des thèmes de Bach. Il doit y avoir plusieurs, et je me demande s'il n'y a même pas une édition critique des 12 études d'exécution transcendante. Il doit sûrement y avoir les études d'après Paganini aussi. Et je serais bien étonné qu'il ait écrit des éditions avec sans tous ses commentaires joué, sans les avoir joués. Mais c'est vrai qu'il y a moins de témoignages enregistrés qu'on trouve des concertos, par exemple. Est-ce qu'il a joué les concertos? Je suis pas sûr. C'est très possible, mais je suis pas sûr.
Il y a un autre compositeur français, Saint-Saëns, qui jouait pas mal, qui a joué pas mal, il me semble, de Liszt. Non,
que Saint-Saëns
jouait beaucoup de Liszt, il me semble.
Ah oui, sûrement. Bah, d'abord, il l'a bien connu.
Il l'a bien connu. Il y a des petits mots qui étaient assez
frustrants. Oui, ils avaient beaucoup d'admiration l'un pour l'autre.
Vous jouez souvent du Saint-Saëns, vous? Ou pas plus que
ça?
Je
n'ai jamais joué de Saint-Saëns jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Je vais dire jusqu'au 21 juillet, je pourrais dire, j'ai jamais joué de Saint-Saëns. Et le 21 juillet, donc dans 5 jours. Je vais jouer pour la première fois de ma vie donc un concerto qui sera le cinquième, l'égyptien,
oui, hein, magnifique, celui-là.
Et que je jouerai pour l'ouverture du festival de la Roque d'Enterrement.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Mais effectivement, Saint-Saëns, vous savez, Saint-Saëns était un compositeur. Alors là, je vous suivrai volontiers quand on dirait que c'est un compositeur un peu taxé, assez conservateur, assez.
Mais je trouve qu'il revient à la mode en ce moment.
Moi, ça a été une proposition du directeur de René Martin, le directeur du Festival de la Roque. Il m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas jouer le cinquième concerto de Saint-Saëns? Et quand il m'a proposé ça il y a quelques mois, au début, je me suis dit, je n'ai jamais joué, je ne le connais pas. Bon, je ne suis plus à un âge où on apprend aussi facilement même. Non. Vous savez, après 40 ans, les choses ne s'apprennent pas de la même manière quand vous avez 20 ans. Voilà. Et puis je me suis dit, après tout, c'est une opportunité. Je suis sûr que je regretterai si je ne le fais pas, si je ne le joue pas. Et donc je me suis mis au travail, et c'est avec beaucoup de plaisir. Et c'est un concerto très original.
C'est chaud aussi au point de vue
ça reste très pianistique.
Oui,
beaucoup de formules qui tombent facilement sous les doigts.
D'accord.
Mais c'est très original, les deux premiers mouvements en particulier. C'est très, très, très particulier. Il y a des choses à faire.
Très bien. Peut-être qu'on vous écoutera, on vous entendra sur la radio.
Alors, je ne sais pas du tout si ça sera enregistré, ce concert.
D'accord. Alors moi, je trouve amusant de rapprocher quand même, et s'ils sont proches l'un de l'autre, Liszt, enfin Wagner et Debussy. Parce que s'il y en avait bien un qui ne supportait pas bien l'autre, c'était quand même Debussy. Même si on a certainement exagéré la chose.
On a sûrement exagéré, parce que Debussy est allé à Bayreuth.
Bien sûr, mais dans sa jeunesse.
Il a eu cette formule qui a été un petit peu mal comprise quand il a dit... on a cru que c'était un somptueux lever de soleil, alors que c'était qu'un très beau coucher de soleil.
Voilà, c'est
peut-être
quelque
pas tout à fait
ça,
les mots,
mais, c'est ça, oui.
Mais, c'est, mais en disant ça, il avait entièrement raison.
Oui, sûrement.
Il avait entièrement raison. C'est, Wagner, naturellement, oui, il annonce certaines choses, mais.
Il a beaucoup piqué aux autres aussi, hein.
Essentiellement à Liszt. Comme l'avait dit très méchamment un historien de la musique il y a longtemps, il avait dit la sonate en si mineur de Liszt, c'est tout Wagner en 30 minutes. Et il y a quand même, il n'y a pas que du faux dans cette formule. Il n'y a pas que du faux. Il y a du rose naturellement aussi et d'autres.
Alors finalement, ce qui va vous manquer, là, on a vu Brahms, on a vu Liszt, on va peut-être Schubert, non?
Parce que vous, Schubert, j'en avais joué beaucoup.
Vous avez joué du temps de Koering,
oui, vous en avez fait beaucoup. Oui.
Mais finalement, bon, il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu dans Schubert. Vous en jouez toujours autant?
Oh, ben moins, parce que, vous savez, oui, j'ai quand même diversifié un petit peu mon répertoire, mais c'est pas impossible que je m'y remette.
D'accord. Mmh. Alors, quel est le compositeur que, parmi tous ces grands classiques, parce que vous êtes plutôt dans, j'ai envie de dire, même si vous en faites d'autres, vous êtes quand même dans les compositeurs, les grands classiques, ceux que vous avez peu abordés, que vous avez envie d'aborder le plus. Bon, c'est que vous avez fait du Schumann, donc du Debussy, etc. Il y en a que vous avez peu abordés. Scriabine, vous l'avez jamais trop fait,
si.
Il y a un enregistrement, oui. C'est vrai, vous avez un enregistrement de Scriabine.
Je l'ai joué de manière un peu sporadique, comme ça. Ouais. C'est un compositeur que tout d'un coup, j'ai une envie de jouer. Et puis, après l'avoir joué comme ça, deux, trois fois, dans les programmes, j'ai besoin de l'oublier un peu, et puis d'y revenir quelques temps
après.
Je crois
que c'est particulier, là. C'est particulier.
C'est très spécial. C'est un monde...
Et Tchaïkovski, vous avez fait aussi?
Non. Je suis assez peu musique russe.
Ah, d'accord, c'est pas votre truc.
Assez peu musique russe, non.
D'accord.
C'est pas mon. Je la sens pas trop. J'adore l'écouter, mais je sens très bien que je ne saurais pas bien la jouer.
D'accord. Donc, Montpellier, l'Orchestre d'Anteron, et puis
Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un concert à Paris, là, dans trois jours. Il y a Cannes, les Nuits du Suquet, il y a Festival dans les Pyrénées aussi.
Et le programme est toujours
un petit peu différent. Oui. J'aime pas trop jouer tout le temps la même chose. Donc, on retrouve là depuis deux mois, j'ai rejoué plusieurs fois, je sais plus, l'opus 111 de Beethoven ou l'opus 26 aussi, la sonate avec la marche funèbre. J'ai joué Schumann, la fantaisie.
Voilà. Oui, c'est vrai, Beethoven, peut-être qu'on vous a pas vu beaucoup dans Beethoven, si.
Oh, j'en ai quand même beaucoup joué. Hein. J'ai bien joué près de la moitié des sonates, tous les concertos et toute la musique de chambre.
Par exemple, une intégrale des sonates, c'est pas votre truc.
Ça, non.
Pourquoi c'est si massif? Non.
Bah, parce qu'à l'âge que j'ai, je sais parfaitement ce que j'avais envie de jouer. S'il y a des sonates que je n'ai pas jouées, c'est que je ne les sentais pas. Et je me suis dit, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que je ne les connais pas. J'ai probablement tout travaillé, ou presque. Mais par exemple, même des grandes sonates comme la Hammerklavier, le plus 109, 110, vous voyez, je l'ai joué 3-4 fois. Et je ne sais pas pourquoi. J'en ai pas eu une bonne impression. Je me suis dit, vaut mieux laisser ça à d'autres.
Alors, je comprends. Juste pour conclure, par exemple, quand on voit le vieux Liszt, donc dans la deuxième partie, est-ce que techniquement, on sent que peut-être il n'a plus toutes ses ressources pianistiques ou pas du tout?
Je pense qu'il les avait toujours, il les a gardés jusqu'à la fin de ses jours. Je pense simplement que ça l'intéressait moins.
Voilà, ça c'est sûr, ça c'est clair.
Cela dit, par exemple, il y a sa toute dernière paraphrase, que je trouve une des plus belles que j'ai beaucoup jouée, qui s'appelle... Enfin, c'est sur un opéra de Verdi, sur Simon Boccanegra. Oui, Réminiscence de Simon Boccanegra.
C'est un chef-d'œuvre.
C'est magnifique. Et ça a été écrit en 1882, et au plan virtuosité.
Oui, ça demande. Voilà. Donc il avait. On dit bien que quand.
Et même toutes les dernières Mephisto, Vals, toutes ces petites choses-là, il a écrit des choses très très difficiles, jusqu'à la fin de ses jours. Mais simplement, c'est moins primordial. Ça existe, la virtuosité est là. Mais c'est plus ça qu'il cherche à mettre en avant.
Mais pour un pianiste, l'âge est moins, est moins prégnant que par exemple pour un violoniste ou un violoncelliste, non? La justesse,
La justesse, elle existe. J'ai envie de dire, elle n'existe pas chez le pianiste.
Oui, voilà,
elle est déjà faite. La note est déjà faite. C'est pour ça quand je dis très souvent, j'ai remarqué que les gens comprenaient pas bien ce que je disais quand je dis, mais vous savez, à la base, le piano, c'est pas très difficile. Bien sûr que c'est pas très difficile, puisque les notes sont déjà faites.
Mais oui.
Donc, à commencer, le piano est infiniment moins difficile que le violon ou le violoncelle, l'alto, ou même des instruments avant, parce qu'on n'a pas besoin de faire la note. La note est déjà faite. Si elle est fausse, c'est que l'accordeur a mal fait son travail. On a éventuellement un peu glissé. Après, ce qui est très difficile et qui prend toute une vie, évidemment, c'est l'approfondissement de la musique.
Vous venez donc d'écouter eh bien Michel D'Alberto qui a très gentiment accepté de parler avec nous comme il avait fait il y a 3 ans. Donc, comme musique, vous avez entendu évidemment Michel D'Alberto au piano. Alors, vous avez entendu en premier le Winterreise de Schubert, donc c'est une des œuvres majeures de Schubert. Il était accompagné ici par le chanteur Stephen Gens. C'est un enregistrement assez vieux. Et c'était le 14e et dernier des leaders, c'est-à-dire Der Lyrmann. Ensuite, vous avez entendu comme deuxième mouvement, deuxième morceau, juste avant que je parle là, Duforêt. C'est l'impromptu numéro 3 en La bémol majeur, opus 34. Et c'était à nouveau Michel D'Alberto qui jouait de son magnifique piano. Voilà, ceci termine notre émission pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver, si vous n'avez pas bien écouté, pas bien entendu, vous pouvez nous écouter sur Facebook, vous pouvez nous écouter sur Twitter, vous nous rejoindre sur Twitter. Vous pouvez aller regarder le site internet de la radio, www.radiofmplus.org. Et si vous voulez nous téléphoner, on vous répondra avec joie, c'est le 04 67 03 28 39. Donc je remercie Benoît à la technique qui a fait l'effort de se lever tôt ce matin, c'est pas donné à tout le monde. Et je vous dis à bientôt, bye bye.